Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des RCESF, les remarquables conversations des étudiants et des étudiantes sages-femmes, le podcast créé par la NESF. Aujourd'hui, ce podcast vous sera présenté par moi-même, Robin, étudiant sage-femme en troisième année, et je suis accompagné de Roxane, présidente de la NESF. Pour ce premier podcast, le sujet sera donc le militantisme au sein de la profession et au sein des études de sage-femme. Pour cela, nous recevrons aujourd'hui Camille Dumortier et Fanny Toussaint. Eh bien, du coup, pour commencer, Camille, peut-être qu'on peut commencer par vous présenter votre nom, votre prénom, votre poste, votre exercice actuel, l'organisation de laquelle vous faites partie.
Bonjour, je m'appelle Camille Dumortier, je suis sage-femme hospitalière au CHRU de Nancy et depuis presque 5 ans, présidente de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes.
Ok, bah du coup là nous on va un peu parler de militantisme et sage-femme aujourd'hui. Et est-ce que comme ça tu as quelques mots qui décriraient le militantisme? Ou juste une façon de l'expliquer
Ouais, je dirais que le militantisme c'est quand on considère que quelque chose n'est pas juste, on se doit de faire en sorte que ça change, que ça évolue. Voilà. Et ne pas être fataliste, défaitiste, c'est un exercice qui est particulier et difficile, mais voilà, si c'est pas juste, bats-toi.
Complètement.
Ok. Et du coup, pour vous, comment vous pourriez nous résumer votre parcours militant à proprement parler? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos de ce parcours personnel?
Alors, si je suis dans le parcours personnel, hein, et mis à part l'ONSSF, voilà, moi j'ai été élevée comme ça, si c'est pas juste, bats-toi. Dans ma famille, c'était comme ça, avec de l'engagement associatif, ça avait été de l'engagement militaire pour mes aïeux, ça a été de l'engagement dans la fonction publique avec des enseignants, avec des gens qui étaient dans les forces de l'ordre, donc on était quand même sur cet aspect sociétal, on va dire, de l'ensemble de la famille. Plus personnellement, je me suis engagée surtout à des moments où il n'y avait personne. Donc, ça a pu commencer par déléguée de classe en quatrième parce que personne ne voulait s'y coller. Donc je m'y étais mise. Donc après, sur le plan associatif, au niveau de l'école de sage-femme, je me suis présentée aussi par manque de candidats à la présidence de l'association étudiante qu'il y avait à l'époque. Ça consistait à organiser des soirées et donc à aller aux soirées, ce qui n'était quand même pas la mission la plus compliquée du monde. Et puis après, la vie a fait que j'ai beaucoup déménagé. J'ai un mari qui travaille dans le sport, donc j'ai suivi, j'ai bougé. Et le vrai premier combat syndical que j'ai dû mener, c'était quand je travaillais à l'hôpital de Marseille, où il y avait un gros problème entre eux. Il y avait des équipes de jour, des équipes de nuit, et un grand déficit en équipe de nuit, un petit excès en équipe de jour. Et en fait, on n'arrivait plus à recruter. Et pour quelqu'un comme moi qui arrivait avec déjà 2 enfants en bas âge, le 3e est né là-bas. Ne faire que des nuits imposées, c'était compliqué. Il n'y avait pas de véritable cohésion d'équipe. Donc là, ça a été la première fois où finalement, je me suis retrouvée sur le devant de la scène. Encore une fois, parce que personne ne voulait y aller. Donc c'est vrai que je n'ai pas tendance à dire « je vais y aller », mais plutôt dire « flûte, s'il n'y a personne, il va bien falloir que je me dévoue ». Et je me suis retrouvée donc à devoir porter des idées qui n'étaient pas nécessairement les miennes, en disant voilà, on était 17, on votait, et puis s'il y en avait 9 qui disaient noir et 8 blanc, même si moi j'avais dit blanc, on m'avait mandaté entre guillemets pour porter noir. Donc ça a été, ça a été un moment pas confortable, pas agréable, et finalement on a réussi à faire en sorte que tout le monde fasse des jours et des nuits. Ça nous a permis de recruter à nouveau au sein de l'établissement et de gagner en cohésion dans l'équipe de sages-femmes. Donc voilà, par la suite, j'ai déménagé et puis j'ai continué à vivre mon petit bonhomme de chemin de sage-femme jusqu'en 2013, où on s'est rendu compte que quand on parlait de loi de santé, il y avait une profession qui n'était pas citée, c'était la profession de sage-femme. De là, on a donc découlé une grande manifestation, une grande grève. Et au départ, voilà, moi je m'étais dit, moi demain je prends ma voiture, j'ai une familiale, donc il y a 6 places avec moi qui veut venir. Et finalement, du jour au lendemain, on a organisé un départ de 3 bus et on est parti et j'ai été un peu autoproclamée, autonomée, j'en sais rien, référente pour Nancy dans un premier temps, et puis ça s'est élargi à la Lorraine. j'ai gardé des contacts avec les gens du conseil d'administration de l'ONSSF, donc j'allais régulièrement, il y avait beaucoup de congrès à l'époque où on venait de toutes les régions pour essayer de parler de nos problématiques et de donner des solutions. Et donc finalement, c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage du conseil d'administration de l'ONSSF. Donc 2013, sage-femme dans les rangs qui organise un petit peu les manifestations. De temps en temps, je me dis, mais que de chemin parcouru, c'était pas ça que je voulais, moi. J'aimais assez être dans les rangs et crier. J'avoue que le côté derrière, être sur le devant de la scène, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, de toute façon, il faut le faire. Il faut que ce soit fait. De par les années, les expériences et tous les gens que j'ai pu rencontrer dans ce domaine-là, j'ai acquis une connaissance et en tout cas j'ai acquis suffisamment de ressources pour savoir quand on me pose une question. Comme je dis, je suis pas une machine de guerre avec plein de choses dans la tête. Par contre, je sais à chaque fois où aller chercher l'info et si besoin, je sais que je peux faire SOS, appel à un ami pour avoir cette info. Donc si je dois faire une espèce de bilan de tout ça, c'est je suis militante un peu malgré moi, mais en même temps je suis militante parce que ça fait partie de moi et que je me lève le matin en me disant au moins j'essaie, au moins je le fais et en puisant les forces dans les gens que je rencontre grâce à ces actions et dans les échanges que je peux avoir, en sachant voilà que c'est pas toujours une place facile, mais que qu'un merci, une petite évolution. Des parlementaires qui parlent des sages-femmes et qui ne connaissent le travail qui est fait par les organisations avec la NESF en tête, hein, bien sûr, vous connaissez la profonde admiration que j'ai pour vous et toute l'affection que j'ai pour vous qui êtes la profession de demain, en fait. Je suis admirative de tout ça et c'est ça qui m'aide à continuer, en sachant quand même que un petit peu de temps en temps, je me dis que je commence à avoir atteint ma date de péremption, parce que justement, toutes ces rencontres que j'ai pu faire, je me nourris de celles qui m'apportent, et par contre, certaines me blessent et m'atteignent, et font que c'est compliqué d'aller discuter avec certaines personnes quand il n'y a pas de respect mutuel, en fait. Voilà, je respecte les gens avec lesquels je parle, j'ai pas besoin d'être d'accord sur tout, mais j'ai besoin de pouvoir discuter, et le concept de appuyer sur la tête des uns pour s'en sortir, c'est vraiment quelque chose qui me déplaît. Et donc voilà.
Justement, par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'au début il manquait un petit peu, enfin qu'il manquait de monde, et c'est aussi pour ça que tu as commencé à plus t'impliquer, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution de l'engagement des sages-femmes un peu maintenant, ou est-ce qu'au contraire c'est vraiment par pic? Est-ce que tu peux faire un peu un parallèle peut-être entre tout ce qui passait plus au niveau 2013 et ce qui s'est de nouveau passé l'année dernière sur les mobilisations, si c'est là où on voit les sages-femmes qui s'engagent ou pas du tout? Parce que c'est vrai que nous on vient d'arriver, donc on a l'impression que l'engagement des sages-femmes, surtout avec la mobilisation l'année dernière, il augmente en tout cas là, mais après quand on entend parler de ce qui a pu se passer, c'est avant, on se dit, mais enfin, on voit que c'est un peu comme des vagues, mais je sais pas, du coup, toi, de ton expérience, t'as l'impression que là, maintenant, on arrive quand même plus à avoir des gens qui s'impliqueraient, parce que c'est vrai que nous-mêmes, dans les assos étudiantes, on voit qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui sont motivés pour être à la NESF, pour les choses comme ça, et je sais pas si c'est quelque chose que tu peux remarquer aussi.
Oui, moi, j'ai remarqué une belle évolution, avec effectivement, c'est toujours des pics, c'est-à-dire que les pics, historiquement, les pics d'adhésion de l'ONSSF, donc on va fêter nos 70 ans, là, cette année. Les pics d'adhésion, ils ont toujours été concomitants aux manifestations. Donc c'était 2013-2014, ça avait été 2000 ans auparavant. En 2021, on a explosé tous les chiffres. On a plus d'adhérents qu'on n'en a jamais eu. Donc avec des sages-femmes qui comprennent cette notion de adhérer, c'est déjà s'engager en fait, et que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Que ça peut être une des sages-femmes qui se dévoue pour organiser un transport, pour organiser une manifestation, prendre contact avec l'association étudiante, avec les associations libérales du coin. Ce qui est toujours difficile, par contre, c'est de garder les gens engagés. C'est-à-dire que ça, c'est un énorme travail de ressources humaines qui consiste à rencontrer les gens, à pouvoir prendre du temps pour discuter avec eux, et surtout toujours leur rappeler que voilà, si tu t'engages, même si toi t'as l'impression de pas en faire suffisamment, t'en fais plus que quelqu'un qui s'engage pas. Donc on est sur une évolution, sur des sages-femmes qui prennent conscience pour beaucoup d'entre elles que ça peut plus durer. Alors c'est un constat qui est partagé avec les autres soignants, mais je pense vraiment que cette prise de conscience, elle est générale. Ça marque aussi malheureusement une souffrance de l'ensemble des soignants hein, qui travaillent en territorial, en libéral, en salarié, que ce soit le public, le privé. Il y a des vraies difficultés dans tous les secteurs. Mais oui, les gens se battent. Et il faut faire attention. Et j'ai rencontré aussi beaucoup de sages-femmes qui se sont battues pendant, par exemple, quand dans le privé, il y a eu des grèves qui ont été faites, avec des réquisitions, avec les gendarmes qui venaient chercher les sages-femmes chez les unes, chez les autres. Et à ce moment-là, malheureusement, il y a eu énormément de burn-out, parce que c'était des gens qui se battaient, c'était l'énergie du désespoir, et qui ont vécu des choses encore plus dures que ce qu'elles vivaient habituellement, qui se retrouvaient toutes seules au lieu de trois en salle de naissance, qui ont vécu des situations hyper difficiles. Et je dis, c'est ça aussi tout le sens de pour moi de la présidence, c'est d'essayer de cocooner les gens avec lesquels je travaille, que ce soit au sein du conseil d'administration, mais aussi nos adhérents. Ce qui veut dire que, je dirais que c'est probablement la chose qui me fait le plus vibrer dans ce que je fais, c'est de prendre mon téléphone pour pouvoir appeler une adhérente qui est en difficulté, une adhérente ou un adhérent d'ailleurs, qui est en difficulté, qui nous a fait part d'une situation pour l'aider un petit peu à débroussailler, et surtout lui dire tiens bon, et ne doute pas de toi en fait. Et dans les autres choses que je me plais régulièrement à répéter, c'est que au sein de l'ONSSF, le burn-out à cause de l'ONSSF n'est pas toléré. Voilà. Donc ça veut dire qu'on s'engage, on est élu pour des mandats qui durent 3 ans, mais il n'y a pas de mystère entre nous, il n'y a pas de colère, de personnes qui sont fâchées. On peut à tout moment choisir d'arrêter cet engagement parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui prenne le pas sur la famille ou la vie professionnelle. Puisque, voilà, parmi les choses admirables aussi, c'est qu'au sein de notre conseil d'administration, on a beaucoup de mamans et beaucoup avec des enfants jeunes. Personnellement, je n'étais pas en état de le faire quand mes enfants étaient jeunes. J'ai pu le faire parce que le dernier avait presque 10 ans en 2013-2014 et qu'il avait un petit peu moins besoin de moi peut-être et que j'avais du temps à consacrer à tout ça. Mais voilà, le choix, je l'ai fait de donner plus de temps à l'ON que je n'aurais pu en donner peut-être à mes enfants. Et ça, c'est des choses qu'il faut assumer pour toute la vie, quoi.
Non, mais c'est clair que c'est quelque chose qui se répète aussi quand on voit dans l'engagement étudiant en fonction de ce qu'on va pouvoir investir. Et enfin, dans l'engagement en général, c'est aussi un choix, mais c'est aussi ça qui définit ce qu'on est et qui on est après. Ouais. Et sinon, sur le côté pro, parce que je sais que nous, par exemple, sur le côté professionnel, il y a pas mal de personnes qui étaient OBN, enfin quelques-unes, en tout cas l'année dernière, qui étaient un peu en hésitation sur le choix de sage-femme, etc. Et justement, l'engagement dans la NESF, c'est ça qui les a encore plus, qui les a débloqué des choses au niveau professionnel. Et est-ce que toi, tu as l'impression que, du coup, ton engagement à l'ONSSF, ça a pu, même dans ta pratique de sage-femme, a changé des choses ou pas?
Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises via l'ONSSF qui m'aident dans ma pratique. Pour citer un exemple, au CHU où je travaille, il y a une maison de naissance qui faisait partie des maisons de naissance les premières ouvertes. Ça m'a permis de travailler concrètement sur les protocoles lors de la création de la maison de naissance, mais aussi de pouvoir suivre sur le plan législatif ce qui se disait et ce qui se faisait. Donc j'essaye de jongler... d'allier ces choses-là. Ça veut aussi dire que, par exemple, puisqu'on est un hôpital universitaire, l'encadrement des étudiants sages-femmes, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait de toute façon depuis toujours, parce qu'on se construit aussi avec ce qu'on a vécu, et que je n'ai pas vécu des moments forcément tous réjouissants durant mes études, et que je garde ça dans un coin de ma tête, pas pour en souffrir, mais pour en être plus forte. Donc c'est vrai que c'est, de par l'ONSSF, mes rapports avec les étudiants sages-femmes qui ont pu aussi évoluer. J'ai rencontré plein de gens qui faisaient partie du bureau national au fur et à mesure des années, et vraiment ça a été aussi un chemin de vie, un parcours de vie qui a été hyper important pour moi. Et puis en parallèle, ça m'alourdit un petit peu la tâche au sein de l'établissement, parce que comme j'ai des connaissances dans différents domaines, on pourra avoir tendance à me solliciter pour des problématiques syndicales, mais qui dépendent des organisations syndicales, ce qui n'est pas ma mission. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on m'a posé une question, je vérifie si l'info est la bonne, et puis je m'engage aussi de ce côté-là. Donc c'est tout un mix, je dirais, mais ça c'est un peu la vie, c'est qu'on prend des uns des autres et de toutes nos expériences. Donc ça a été hyper enrichissant. Et je plaisante souvent en disant que je suis une des hospitalières qui connaît le mieux les cotations, puisque voilà, ce livret de cotations, au départ, c'était quelque chose dont je me suis emparée parce que je comprenais absolument rien à ce qu'on me racontait quand on parlait de conventions, que je connaissais pas du tout le tarif des actes, et donc je me suis dit, bah tiens, je vais me pencher là-dessus pour savoir ce qu'il en est. Et face aux institutionnels, le fait d'être moi-même dans un établissement qui est le 13e dans lequel je travaille, puisque je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup bougé, donc j'ai toujours travaillé en tant que salariée, mais j'ai fait du privé, du public, des maternités de tout type, donc l'herbe est plus verte ailleurs, ça se passe comme ci, comme ça ailleurs. Je sais qu'il y a du bon et du moins bon partout, et que malheureusement, on n'a pas encore réussi à créer l'établissement de rêve pour les professionnels et surtout pour les patientes. Donc je garde cette vision un petit peu large, et puis voilà, cette idée que l'ensemble de nos facettes libérales, privées, territoriales, enseignants, étudiants, est à prendre dans son ensemble. Il ne faut surtout pas opposer les uns aux autres, et ça c'est une force de notre syndicat, qui est syndicat professionnel, mais aussi pour les étudiants, c'est que quand on se retrouve face à des institutionnels qui nous disent « oui, mais à l'hôpital c'est comme ci » ou « non, en libéral c'est comme ça », nous en face, en fait, on a les éléments et on a les arguments pour répondre, puisque lors de nos réunions, par exemple, on met un point d'honneur à essayer d'y aller avec des gens qui viennent de différentes structures et qui ont différents modes d'exercice. Donc on ne peut pas monter les sages-femmes les unes contre les autres. Ce qui m'amène d'ailleurs à un petit truc, voilà, parmi les choses, je disais tout à l'heure, qui blessent et qui énervent. La chose qui m'énerve le plus, c'est quand on nous dit « oui, mais vous, les sages-femmes, vous n'êtes pas toutes d'accord ». Et là, je pense que c'est le côté féministe de ma grand-mère qui remonte. C'est-à-dire que quand on me dit ça, en fait, moi j'ai l'impression qu'on est en train de me dire « vous, les bonnes femmes, descendez à la rivière avec vos chaussettes sales, lavez-les, frottez bien fort, et quand vous serez toutes d'accord, vous reviendrez discuter avec nous ». Parce que vous n'avez le droit qu'à une voix, finalement, même si vous êtes plusieurs. Alors que l'humanité, finalement, et les gens qu'on côtoie dans notre exercice, dans notre vie, l'humanité, elle est faite de toute cette richesse-là. Donc non, on n'a pas besoin d'être tous d'accord. La démocratie est telle qu'il y a plein de partis politiques, plein d'organisations syndicales. Pour autant, les choses peuvent évoluer. Donc pourquoi, pour nous, sages-femmes, ce serait pas la même chose? Donc ça, c'est vraiment le... Je ne réponds plus de rien quand quelqu'un en face de moi me dit « Oui, mais les sages-femmes, vous n'êtes pas d'accord. » J'avoue que il m'est arrivé de quitter une réunion parce que je sentais que j'allais m'emporter, en fait, et que ce n'était pas l'image que je voulais donner. Voilà.
Et du coup, justement, par rapport un peu au féminisme en général, est-ce que tu trouves que l'engagement dans le métier et dans les études de sage-femme particulièrement, ça a aussi un peu cette particularité où on s'engage souvent aussi pour les femmes et qu'il y a vraiment un lien entre l'engagement pour plein de causes différentes et les sages-femmes, ou enfin en gros un peu quelle place tu mettrais de l'engagement et du militantisme en particulier dans cette profession et dans ces études?
Alors je dirais que moi je me définis plutôt comme humaniste que comme féministe, et toujours pareil, où je me dis on a été obligé d'inventer entre guillemets le féminisme tellement l'humanisme est vraiment quelque chose avec une dichotomie complète, donc ça me met mal à l'aise en soi. Forcément, je suis une femme, donc j'ai vécu moi-même des choses qui enfin, du fait de mon sexe féminin. Donc ça a pu être des violences dans la rue, du harcèlement de rue, ça a pu être des violences gynécologiques. Donc je sais bien que de toute façon, il y a un réel problème de ce côté-là. Maintenant, je dirais voilà, que moi, je dis toujours que ce métier, il est profondément humain. Voilà. Et que dans ce métier, je suis amenée à m'occuper principalement de femmes, donc je vais les défendre, mais que si je m'aperçois qu'en parallèle à ma profession, il y a quelque chose qui n'est pas normal et que c'est les hommes qui en souffrent, j'utiliserai la même énergie pour faire en sorte que eux soient écoutés aussi. Ça faisait partie, par exemple, de la présence des pères en salle de naissance. Quand j'ai commencé ma formation, on faisait sortir les pères lors des ventouses, des extractions instrumentales, parce qu'on considérait qu'ils allaient immanquablement tomber dans les pommes et que et que voilà, et qui serait pas capable de supporter ça. Donc c'était absolument injuste, et moi j'ai toujours été pro-choix, donc pro-choix de rester ou de sortir, mais avec les explications. Donc ouais, militante, féministe, humaniste. Et puis je dirais que c'est un peu comme ça dans n'importe quelle chose de la vie qui restera pas juste. Je peux être particulièrement coriace avec un assureur, par exemple, si je fais pas les choses comme il faut. Voilà.
Ok, d'accord, super. Et du coup, prochaine question, est-ce que il y aurait un souvenir, même si j'imagine qu'il y en a beaucoup, mais un souvenir un peu plus marquant que les autres dans votre vie de militantisme qui résonne en vous et qui vous a vraiment marqué?
Dans les moments, des moments, on va dire, je vais parler de moments pleins d'émotions, d'accord? Celui qui me vient en tête en priorité au niveau décharge émotionnelle, c'est en octobre 2021, quand on est le 7 octobre au ministère, qu'on est reçu par des conseillers de la ministre, que j'entends des choses incroyables. Enfin voilà, ça commençait par « mais on n'a pas bien compris pourquoi vous étiez en grève depuis X temps », qu'ils essaient de monter les uns contre les autres en donnant une place à certains qui ne la méritent pas, voilà, soyons clairs, où j'entends dire que puisque les sages-femmes du privé restent dans le privé, c'est qu'elles sont contentes de leurs conditions, où j'entends une négation complète de tout ce que peut réclamer l'ANESF et de toutes les preuves qui ont pu être apportées par les enquêtes à la fois du Collège des sages-femmes et de l'ANESF. Et où en fait, à un moment, voilà, on est pendant la réunion et en fait, je vrille complètement et je me vois en train de jeter les chaises en l'air. Enfin, vraiment, je vrille. Voilà. Donc, je me tais, je me recentre sur ma chaise, un petit peu de difficulté à faire la part des choses entre ce que j'ai envie de faire, ce que je suis en train de faire. Donc, c'est un moment difficile. Alors ça, c'est lié à une fatigue intense. En fait, il faut savoir que le 7 octobre, je sors de 15 jours d'arrêt pour burn-out avec mon médecin qui voulait m'arrêter 3 mois. Je lui dis non, dans 3 jours. Il me dit c'est 15 jours et c'est non négociable. On se revoit dans 15 jours. Je n'y retourne pas d'ailleurs. J'ai dû avoir une petite discussion avec lui après. Je me suis arrêtée en Guirlande. En lui expliquant que je ne peux pas être à la fois devant le ministère et en arrêt de travail, que ça ne fait pas partie de mes fondamentaux. Mais en tout cas, voilà, je suis particulièrement fatiguée. Et quand je sors de là, il faut enchaîner sur tout le monde attend qu'on dise, et il faut enchaîner, il faut parler, et en fait, à l'intérieur de moi, mais je suis dans une colère noire, j'ai envie de hurler, j'ai envie de tout casser, et malgré tout, il faut quand même que je prenne sur moi pour essayer d'être intelligible, clair, pas hurler des gros mots, parce que j'aime beaucoup les gros mots, pas hurler des gros mots et ce que je pense de cette réunion. Et en fait, le lendemain, je me retrouve à peine pouvoir bouger, tellement j'ai dû me contenir. Et voilà, c'est ces moments-là où c'est juste envie de pouvoir dire « allez tous vous faire foutre, en fait ». Voilà, et c'est pas possible de le faire parce qu'il faut quand même garder une certaine rigueur. Donc je dirais que ça, voilà, le moment le plus difficile de ma vie de militante, je pense que ça a été celui-là. Avec toute la responsabilité d'avoir dans la rue 7 ou 8 000 personnes qui viennent parce que je leur ai demandé de venir, on leur a demandé de venir, mais la manifestation, elle est à mon nom, ça veut dire qu'il y a les services de police, de préfecture et tout ça qui m'appellent depuis 15 jours pour vérifier comment ça va se passer, qui me demandent combien il y aura de personnes, et avec forcément une peur, parce que ça c'est un peu mon côté maternel, une peur qu'il arrive quelque chose qui est une blessure, un débordement, des gens qui arrivent dans la manif, certains qui soient tellement en colère, qui fassent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Tout ça à mettre en parallèle avec le fait que dans ma famille, il y a des CRS, donc que je respecte profondément leur travail et que je ne veux surtout pas qu'ils soient pris à partie et qu'il y ait des débordements, comme il y a pu y en avoir en 2013-2014, avec quand même des blessures. Voilà, après, dans les moments rigolos, entre guillemets, c'est que quand je suis élue présidente, en fait, on est au moment où on va bientôt signer l'avenant, mais c'est pas sûr. Et en fait, on s'est mis d'accord avec Caroline Raquin, la présidente précédente, en disant qu'elle va rester présidente le temps de la signature de cet avenant, enfin que les choses aboutissent, et que je prendrai le relais après. Donc je me dis, voilà, je vais prendre le relais en avril, mai, juin, je ne sais pas trop, on verra bien, mais ça arrive, mais je n'y suis pas encore. Et en fait, le soir de des élections, l'avenant, on est tous d'accord pour l'avenant, on est d'accord pour signer l'avenant 4, donc il n'y a pas besoin de prolonger cette présidence. Et donc finalement, je me retrouve présidente, mais je n'avais pas compris que c'était le jour-là. Et on est au resto, et ça doit être un moment où je profite, et là, je me retrouve assommée par le poids de cette responsabilité à laquelle je me préparais. C'était pas une surprise, mais je m'y préparais pas ce jour-là. Et je fais la plus belle crise de tachycardie de ma vie, qui met une heure à passer. Et là aussi, je finis en miettes parce que ça fait partie aussi des choses qui sont physiquement pas faciles à supporter. Donc voilà. Et puis après, les moments marquants, ils sont là tous les jours. C'est le merci, c'est la copine, c'est une ancienne présidente ou les anciennes présidentes qui me disent que j'ai fait du bon boulot, c'est rencontrer des gens et avoir le plaisir de les croiser en stage, dans leurs interventions militantes et tout ça. Ça, c'est des petits bonheurs du quotidien. Parce que j'aurais plus tendance à garder les petits qu'est-ce qui s'est passé de bon aujourd'hui dans ma journée, puis essayer de mettre ce qui s'est passé de moins bon un peu en arrière.
Parce que oui, c'est vrai qu'on sait que c'est quelque chose qui n'est pas facile de militer, d'autant plus pour une profession ou quelque chose. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous avez senti que vous avez eu peur, en fait, que ce que vous fassiez, ça ne soit pas forcément les bonnes choses pour tout le monde au moment-là? Est-ce qu'il y a des moments où on a peut-être un peu plus de recul, ou un soir on prend conscience, on se dit, là, j'aurais peut-être pas dû faire ça, ou est-ce qu'il y a...
Alors, il y a eu des maladresses. Il y a des moments où je me suis dit « Oups !» Alors, ça fait partie de, entre autres, quand on veut répondre à une personne et qu'on fait répondre à tous en n'étant pas très, très gentil. Donc, voilà, ça m'est arrivé. Donc, ça, c'était mes moments « Oups !» Après, j'ai fait beaucoup plus attention. Il y a des décisions qui ont été très difficiles à prendre. La signature, typiquement la signature d'un avenant, s'engager pour toute une profession. Pour toutes les libérales, alors que je ne le suis pas moi-même, il y a quand même un petit problème de légitimité à certains moments. Donc, même si, encore une fois, ce n'est pas une décision, c'est une décision du CA et ça a été fait. Donc, si j'y vais, c'est que tout le monde est OK pour que j'y aille. Donc, ça, déjà, c'était pour l'avenant 4. Donc, j'étais présidente depuis très peu de temps. C'était quelque chose d'assez angoissant. Et après, pour l'avenant 5, où on s'est beaucoup posé de questions, où on a fini par dire on va le signer parce qu'il faut qu'on avance sur l'accompagnement global, sur la sage-femme référente. Donc on le signe sans être satisfait du truc, mais parce que ça fait 18 mois qu'on tourne en rond avec des interlocuteurs qui font oui, oui, mais non. Donc c'est usant. Et donc on prend la décision de signer cet avenant. Moi, j'écoute forcément, on a beaucoup de discussions autour de ça. Et c'est vrai qu'une fois que l'avenant est signé, immanquablement, on se reçoit les critiques, les gens qui ont dit « vous n'auriez pas dû signer ». Donc on essaye d'expliquer le cheminement qu'on a eu, mais c'est toujours un petit peu difficile quand on a eu une décision qui restait consensuelle, mais une décision qui avait provoqué énormément de discussions, là, c'est pas simple.
Juste une petite pause pour faire un petit point sur la notion d'avenant. Effectivement, on parle d'avenant, mais on sait que c'est une notion qui n'est pas connue de tout le monde, donc on voulait vous préciser un peu tout ça. Dans le podcast, on parle de l'avenant 3, de l'avenant 4, mais finalement, c'est quoi? Tout d'abord, un avenant, c'est un document qui a pour objectif de faire évoluer un contrat. C'est le résultat de négociations entre deux parties. Dans ce cas-là, c'est le résultat de discussions entre une convention nationale de sage-femme et l'assurance maladie. L'avenant 3 dont on a parlé remonte à mai 2015 et a permis plusieurs évolutions de notre profession. Tout d'abord, nous avons eu accès à la classification commune des actes médicaux, que tu as peut-être déjà entendu sous l'acronyme CCAM, pour les actes des sages-femmes dont la compétence est partagée avec les médecins. Cet avenant nous a également permis l'aménagement du dispositif démographique de conventionnement des sages-femmes en zone surdotée. Et enfin, il a permis l'instauration d'une procédure de déconventionnement exceptionnel en cas de violation particulièrement grave des dispositions législatives, réglementaires ou des engagements conventionnels. Plus tard, en 2018, l'avenant 4 a quant à lui permis le développement de nos actions de prévention, ainsi que le développement du programme d'accompagnement de retour à domicile, le PRADO, et donc a ainsi amélioré l'accès aux soins que les sages-femmes proposent. Tu l'auras compris, ces avenants sont donc le reflet de combats qui permettent de faire avancer notre profession.
Après, sur le reste, je dirais que le travail que j'ai voulu mener, moi, il est en continuité avec ce qui avait été fait avant, et je sais que ce qui sera fait après sera en continuité aussi, avec chacun ses affinités et chacun ses objectifs. J'ai rempli les objectifs que je m'étais fixés, qui étaient d'augmenter le nombre d'adhérents, et puis, à l'époque, on avait un problème financier, donc redresser la barre financière du syndicat, et puis, à côté de ça, il y avait la sixième année, à côté de ça, il y avait le statut de praticien hospitalier pour lequel on n'a pas dit notre dernier mot. Donc oui, et puis bah, de toute façon, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc des erreurs dans la vie, on en fait. Et comme je dis souvent, en fait, ton choix, c'est ton choix. Donc c'est pas la peine d'aller te poser la question de savoir s'il est bon ou s'il est mauvais. Si tu l'as fait, tu as choisi. Donc c'est que c'était le bon choix. Voilà. À ce moment-là, dans ces circonstances-là, c'était le choix à faire ou le choix que tu as jugé bon de faire. On peut pas vivre toute sa vie avec des regrets. Parfois, on essaye de se dire qu'on sera moins naïf et qu'on se fera pas avoir la fois d'après. Et puis malheureusement, de temps en temps, on se fait re-avoir, mais on essaye d'augmenter en vigilance et puis de ne pas refaire les mêmes erreurs. Je dirais, voilà, ce qui serait non pardonnable, c'est d'aller martel en tête sur quelque chose qui ne va pas et puis de rester dur comme fer sur cette idée-là alors qu'elle n'est pas bonne. Mais comme je dis, c'est de la discussion et puis des idées qui évoluent au fur et à mesure du temps.
Et est-ce que justement dans ton mandat de présidente, mais aussi en général, par exemple, le nombre d'adhérents qui augmente, c'est une victoire. Est-ce que tu avais une belle victoire pour les femmes ou pour les sages-femmes, enfin pour les patientes ou les sages-femmes qui te vient en tête en général depuis que t'es sage-femme ou depuis que t'es engagée, qui pour toi était vraiment un moment où là c'était on pouvait vraiment célébrer et être content.
Alors sur un moment précis, peut-être que ça va me venir, mais ça me vient pas immédiatement. Par contre, je dirais par rapport à 95 où j'ai commencé, en sachant pas du tout ce que c'était que sage-femme d'ailleurs, je me dis quand même qu'il y a eu une évolution absolument fondamentale. C'est que tout le monde connaît maintenant les sages-femmes. Rares sont les gens qui pensent qu'on est des accoucheuses. Ça existe encore un petit peu, mais franchement, par rapport à ne serait-ce qu'à 10 ans, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Et ça, je dirais que c'est une grande victoire à la fois pour les professions, mais surtout pour les femmes. Donc ça, c'est sur du long terme, c'est bien. Un hippie pour un, ben si, j'en ai fait la semaine dernière quand on a eu les résultats de l'enquête de représentativité qui nous montre que, d'après la dernière enquête, donc l'ONSSF a 74% des adhérents libéraux. Donc voilà, on se retrouve avec vraiment deux syndicats professionnels, certes, mais l'un qui a trois fois plus de voix que l'autre. Et ça, c'est une victoire aussi sur du long terme, mais ça a été mon petit hippie pourra. Et puis après, une proposition de loi Chapelier qui passe à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est des choses aussi qui sont... Qui me font dire que, même si je trouve toujours que les choses n'avancent pas assez vite, que malgré tout, les choses ont avancé. Voilà. Et puis, c'est aussi des collègues qui me disent que, grâce aux avancées financières qu'il y a eu, même si moi je juge qu'on n'est toujours pas payé à la hauteur de nos responsabilités, mais quoi qu'il en soit, grâce à ces avancées financières, elles ont pu changer leur voiture parce qu'elles ont plus de sous. Donc je me dis ça, c'est des choses aussi qui font du bien, on va dire, quotidiennement. Et puis, je pense aussi que tout ce militantisme, toutes ces sages-femmes qui se rapprochent les unes des autres et qui se sont rencontrées pour une raison ou pour une autre, ça leur permet de mieux communiquer entre différents modes d'exercice et puis de ne plus être, d'un côté, il y a la sage-femme de PMI, de l'autre, il y a la sage-femme libérale, de l'autre, l'hospitalière, mais bien de se dire qu'on est une grande famille et qu'on parle tous la même langue. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est une grande victoire, ouais.
Du coup, à l'heure actuelle, est-ce que vous avez toujours envie de militer, même si je pense qu'on se doute de la réponse, et si oui, du coup, qu'est-ce qui vous motive vraiment à continuer ce parcours, ce combat, et qu'est-ce qui nous reste encore vraiment de grand à gagner, même si je pense qu'on a tous des tonnes d'idées pour répondre à cette question, mais pour vous, principalement, qu'est-ce qui vous motive à continuer à l'heure actuelle?
Alors bien sûr, à l'heure actuelle, j'ai encore envie de militer parce que c'est pas dans ma nature d'être à un endroit où j'ai pas envie d'être. Voilà. Donc, pour autant, je me pose souvent des questions sur l'endroit où je suis. Et puis après, la vie fait que, comme je disais, on fait des choix. Alors, des fois, on ne fait pas le choix de faire le choix, ce qui veut bien dire qu'on a fait un choix en soi. C'est un peu compliqué, mais voilà.
Je comprends.
Donc oui, de toute façon, je suis là parce que je me dis qu'il y a encore des choses, des combats à mener. Les combats principaux, je dirais, c'est... pour moi, maintenant, il faut absolument qu'on ait le même statut que les autres personnels médicaux à l'hôpital. Alors... parce que je considère comme acquis la sixième année, le maître de stage et tout ça, ça j'ai envie de dire next, la classification INSEE, tout ça c'est bon. Le prochain pas, c'est effectivement cette modification statutaire à l'hôpital, puisque c'est là qu'on est en majorité, et par ricochet dans le privé, que ce soit lucratif ou pas lucratif, en territorial. Et puis surtout donc une possibilité de bi-appartenance et d'exercice mixte. Enfin, il y a un moment où il faut... absolument qu'on travaille sur des nouveaux modèles pour réussir à faire en sorte que les sages-femmes restent aussi à l'hôpital, que la relation ville-hôpital soit beaucoup plus fluide qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Donc je dirais que pour mes derniers mois de présidence, pour moi c'est focus sur le statut de praticien hospitalier maïeutique et je resterai, je suis engagée au sein du CA jusqu'en mars 2024, donc de toute façon après... on verra ce qu'il en est. Il sera peut-être temps de passer la main, chose que je ferai en pouvant être fière de ce que j'ai réalisé, en étant forte de plein d'amitiés et de gens que j'ai pu rencontrer, et en sachant que de toute façon, tout ça ne sera pas enterré pour un nouveau, pour des nouvelles idées, puisque on est patiente, mais il est grand temps, voilà.
Super. Juste pour finir, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure quand tu parlais de ton parcours, mais est-ce que tu avais du coup, bon, tu as parlé de ton... Déjà, tu es dans quelle asso étudiante? Elle existe toujours ou pas? C'était quelle école?
À la Cato.
Ah, c'était... Ah, ok, bah oui, du coup, c'était toujours... bah, là où il y aura les gynèques en plus.
C'est ça, exactement.
Et du coup, est-ce que tu avais une vision ou une place du coup du militantisme quand tu étais étudiante sage-femme, ou même est-ce que tu connaissais un peu les organismes professionnels de la profession, ou est-ce que tu t'envisageais justement un engagement pour les sages-femmes à ce moment-là?
Je dirais que non, parce que la seule... Nous, on avait une asso, mais la NES n'était pas... n'était pas en grande forme à cette époque-là, donc je connaissais même pas la NESP. Notre asso, c'était du assez local, où on faisait des choses entre sages-femmes, alors une fois de temps en temps avec les kinés, avec d'autres orgas, mais on n'avait pas une réelle... comment dire ? On n'avait pas des réels contacts. Et non, sincèrement, il n'y avait pas un de mes cheveux qui pouvait penser que j'allais faire ce genre de choses. Enfin, non. Non, non, c'est vraiment pas quelque chose que j'avais... envisager, imaginer, d'autant que voilà, moi j'ai un petit peu tout fait en même temps, j'ai été diplômée enceinte, donc rapidement après les enfants sont arrivés et tout ça, donc j'étais dans une autre mouvance, et puis finalement je dirais que voilà, mes racines m'ont rattrapée.
Et juste pour finir, est-ce que tu as un conseil comme ça qui te vient potentiellement d'un livre, une musique, un film ou quelque chose de plus culturel, justement un peu en lien avec le militantisme ou en général l'engagement des sages-femmes, ou même l'engagement tout simplement, quelque chose qui justement peut-être que où tu te reconnais plus dedans, ou qui te donne envie justement de continuer à te battre en général pour plein de choses?
Alors, je prends pas beaucoup de temps d'aller au ciné, et je lis seulement l'été, puisque dans la nuit j'ai trop de trucs un peu rébarbatifs à lire. Quand on me dit film, en fait, moi, alors ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec le militantisme, mais en fait, c'est Amélie Poulain qui décide un matin d'essayer et de voir, et si ça change les choses, et ben, promis, elle s'y met. Donc, je dirais que voilà, pour moi, ça c'est un peu une belle image, et que voilà, on peut en appuyant sur un petit bouton se retrouver propulsé dans des horizons un petit peu différents, et ouais, j'ai pas d'autres films qui me viennent en tête.
C'est très bien. Merci beaucoup,
ouais, merci Camille. Beaucoup,
c'était
ouais.
Hyper intéressant, et je pense que ça permettra aussi de se projeter pour des étudiants et étudiantes, enfin même se projeter dans les organisations professionnelles, et même plus un peu comprendre ce qui se passe dans les syndicats, parce que je pense que ça reste assez flou encore pour les étudiants et étudiantes actuellement. Donc merci beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose pour finir.
Bon, écoute, love you les copains.
commencer, ça serait du coup que tu te présentes en nous donnant du coup ton nom, ton prénom, ce que tu as pu faire justement au niveau de ton engagement associatif, les associations ou organisations dont tu as fait partie ou dont tu fais partie actuellement.
Bonjour. je suis Fanny. Je suis actuellement sage-femme. Je travaille en tant que vacataire dans la maternité des Bluets à Paris dans le 12e. Je suis aussi en master 2 de sciences humaines et sociales à l'université de Montpellier. C'est le master soins, humanité et société. Donc, en fait, c'est les sciences sociales appliquées aux soins. J'ai toujours été très intéressée par l'associatif et le fait de pouvoir un peu aider les autres, faire du social et m'impliquer. Donc moi, j'ai commencé en tant que membre de l'association SOS Racisme quand j'étais au lycée en terminale. Après, j'ai arrêté, je suis allée en PACES. Et donc, à partir de ma deuxième année d'études de sage-femme, donc j'ai d'abord été tutrice au tutorat santé de Nîmes en tant que tutrice en biologie de la reproduction et unité fœtoplacentaire, donc c'était les matières maïeutiques à ce moment-là. En même temps, j'ai aussi été chargée de mission à la Corporation Nîmoise des étudiants sages-femmes, donc j'étais chargée de mission PCS, c'est prévention santé et citoyenneté, donc j'organisais des goûters, des collectes de fonds pour différentes associations. J'ai aussi participé à l'AFEV, c'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Donc en fait, ça c'est l'accompagnement personnalisé d'un enfant. Donc c'est des enfants qui sont en difficulté, qui sont recrutés par leur école et ensuite qui sont mis en relation avec des étudiants et étudiantes qui vont ensuite passer 2 heures par semaine avec eux. Et c'est pas du tout de l'aide au devoir ou quoi, c'est plus un peu les sortir de chez eux, faire des choses culturelles ou quoi. Donc nous on a été à la piscine, on a été au cinéma, on a été au musée, enfin le but c'est voilà de les sortir un peu de chez eux, de leur faire des activités. Donc ça je l'ai fait pendant 2 ans, pendant ma deuxième et ma troisième année d'école de sage-femme. Ensuite, pendant ma troisième année d'école de sage-femme, j'ai été vice-présidente du pôle PCS, donc toujours prévention santé et citoyenneté. Et j'ai aussi été administratrice AGEM et ANES. Donc ça, c'était sur ma quatrième année. L'AGEM, c'est l'Association Générale des étudiants montpelliérains. Donc c'est la Fédération Territoriale de Montpellier. Pendant ma quatrième année, j'étais aussi présidente de la Corporation Nîmoise des étudiants de sage-femmes. Et j'étais aussi membre de la CQSA, donc c'était la commission des questions sociales de l'ANES. Donc on avait rédigé une contribution sur le bien-être et c'était suite à l'enquête bien-être en fait, et donc sur les actions qui pouvaient être mises en place. Ensuite, j'ai fait une première année de césure entre ma quatrième et ma cinquième année. Donc c'était en 2019 et 2019-2020. Et donc j'ai été première vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc sur tous les dossiers de SR, tout ce qui était recherche, intégration universitaire, maître de stage, etc. J'étais également administratrice FAGE pendant ce temps-là. Ensuite, en 2020-2021, j'ai continué et j'ai été présidente de l'ANES. Donc là, j'étais plus en césure parce qu'on a le droit de faire qu'une seule césure par cycle, mais je m'étais mise d'accord avec ma directrice pour faire un redoublement. En fait, enfin, je ne suis pas allée en stage ni en cours de toute l'année et j'étais inscrite en cinquième année et j'ai repris en cinquième année par la suite. J'ai été formatrice FAGE, administratrice de la FAGE. Et également du coup présidente de la NEF. J'ai aussi été formatrice coexiste, donc c'est en gros des interventions en milieu scolaire qui sont réalisées par la FAGE, SOS Racisme et l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Donc ça je l'ai fait aussi cette année-là. Et j'ai fait le PSSM, c'est les premiers secours en santé mentale. Et ensuite, en 2022, j'ai été bénévole accueil sur l'exposition Sex in the City au Solidays. Donc, en fait, les Solidays, c'est un grand festival qui est organisé par Solidarité Sida, qui est une association qui fait notamment de la prévention à la vie sexuelle et affective, de la lutte contre les IST, etc. Et du coup, c'est une grande exposition de prévention à la vie sexuelle et affective, à laquelle j'ai pu participer du coup pendant le festival. Et actuellement, je suis bénévole prévention dans cette association. Donc là, on vient de finir d'être formé et on peut commencer maintenant à intervenir donc sur des stands, sur des maraudes, des choses comme ça, où bah, du coup, on peut faire de la prévention à la vie sexuelle et affective. Et voilà, dans les grandes lignes, j'en suis là.
Ok, bah trop bien. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ces engagements-là aussi au local que tu avais pu faire avant. Enfin, je pensais que c'était plus le parcours, on va dire, un peu plus classique avec juste admin, etc. Mais trop, trop intéressant. Bah, du coup, la prochaine question, ça serait du coup pour toi, quel mot ou comment tu définirais militantisme?
Bah, pour moi, le militantisme, c'est plus un mode de vie ou un état d'esprit de manière globale. C'est-à-dire que je me considère comme militante, bon, par mon parcours associatif, mais aussi parce que, bah, au quotidien, bah, j'essaie de vivre en accord avec mes valeurs. Je vais aussi à mon propre compte en manifestation. Je vais bah, avoir des débats avec mon entourage et bah, un peu voilà, discuter de certaines idées ou de certaines positions. Que je peux avoir, donc pour moi c'est pas uniquement ce que tu as pu avoir comme poste ou ce que tu as fait bah, sur le papier, mais aussi globalement voilà, comment tu te comportes dans ta vie de manière générale.
Trop voilà. Cool. Non, c'est hyper intéressant. Et je suis assez d'accord avec ça sur le fait que ce soit un peu un mode de vie en général, le militantisme était plus global que juste un engagement à un certain endroit, à un certain moment, et que c'est plus un fil conducteur tout le long. Et du coup, prochaine question. Qu'est-ce que du coup ton parcours militant a pu t'apporter, que ce soit sur le plan pro, en tant que sage-femme maintenant, ou même en général, et même du coup, par exemple, avec le fait que tu fasses aussi un master en plus, je ne sais pas si ça a été lié à ton engagement que tu as pu avoir, et qu'est-ce que tu as pu t'apporter aussi sur le plan perso?
Alors, je pense que j'arriverai pas à être exhaustive parce que l'engagement, ça apporte vraiment énormément de choses. Enfin, moi, ça a très clairement changé ma vie. Hein. Alors, au niveau personnel, je sais que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi parce que bah, j'avais un peu, enfin, j'étais pas forcément capable de prendre la parole en public, d'affirmer des idées, voilà, de me sentir capable d'accomplir certaines choses. Et bah, petit à petit, par des engagements successifs, j'ai été amenée à bah, prendre en charge de plus en plus de responsabilités, à parler devant des personnes. Et bah, finalement, je me suis retrouvée à des Guinness, à parler devant 400 personnes en n'étant pas du tout stressée. Et bah, après, à aller rencontrer des députés, des ministres. Et en fait, bah, je trouve que voilà, ça donne confiance en soi. On se rend compte que bah, en fait on est capable de faire plein de choses et que bah, si je pense que dans la vie il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte du pouvoir qu'on peut avoir mais en fait enfin parce qu'on se dit bah on est un simple citoyen et du coup bah oui on peut voter mais bon on n'est qu'une voix parmi tant d'autres mais en fait si on s'engage vraiment bah voilà on peut être simple étudiant de sage-femme de 23 ans et rencontrer une ministre et enfin en fait on peut quand même avoir de l'impact et bon on change pas non plus le monde intégralement mais on a quand même eu pas mal de victoires sur les différents mandats de la NESF et donc bah c'est on apporte aussi notre petite pierre à l'édifice donc bon voilà niveau confiance en soi c'est ça. Après, il y a aussi bah, des compétences. Moi, j'ai pu gagner pas mal de compétences de management, surtout, voilà, de gestion d'équipe, de gestion de projet, des compétences en éloquence, bah, être capable de mener un rendez-vous, de négocier. Après, aussi des compétences techniques, informatiques. Des compétences en tant que formateur et formatrice, bah, être capable d'animer une formation, de la créer, de gagner en pédagogie. Enfin, ouais, ça apporte beaucoup de choses. Et après, socialement aussi, bah, ça fait rencontrer en fait beaucoup de personnes. Moi, dans mes meilleures amies actuellement, il y a notamment des personnes qui ont été coloc avec moi quand j'ai été en césure pour la NESP et que j'aurais certainement jamais rencontré sans l'associatif.
Ok, c'est top. Et sinon, selon toi, de manière générale, l'engagement et le militantisme, ça a quelle place dans nos études et dans notre métier? Tu trouves qu'on leur donne quelle importance et quelle place?
Déjà dans nos études, si on compare avec les autres étudiants et étudiantes en France, on se rend compte que les sages-femmes sont très engagées. Déjà parce qu'on est des petites promotions, qu'il n'y en a pas énormément. Et du coup, si tu comptes qu'il y a quand même une association par école avec un certain nombre de personnes dedans, ça fait que le pourcentage d'étudiants et étudiantes engagés est quand même assez important. Et par exemple, les GINES en France, ça regroupe quand même 10% des étudiants et étudiantes sages-femmes, ce qui est énorme et ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres fédérations. Donc, on est quand même des étudiants et étudiantes assez engagés. Après, c'est assez compliqué à concilier avec les études. Je l'ai toujours fait et qu'on est beaucoup à le faire, mais parce que nos études sont quand même extrêmement intenses, qu'on a bien vu avec tout le débat sur la sixième année, enfin c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, que c'est pas possible réellement de faire ses études et d'arriver à tout faire rentrer dans un emploi du temps. Donc on est obligé de faire des choix pour s'engager, mais finalement il y a quand même beaucoup d'étudiants et étudiantes sages-femmes engagés. Et au niveau de la profession, alors c'est mon avis personnel, mais moi je pense qu'on est une des professions, voire la seule profession assez ouvertement féministe, dans le sens où on est une profession qui est au service des femmes, qui a pour objectif de les aider à contrôler leur contrôler leur corps. Choisir leur contraception, choisir si elles veulent des enfants ou pas, comment accoucher, où accoucher. Enfin, je pense que on a ce pouvoir-là. On a aussi le pouvoir de, on a aussi beaucoup de pouvoir sur leur corps en soi, parce qu'on peut aussi en abuser et refuser les choix des patientes. Mais j'ai le sentiment quand même que il y a beaucoup de personnes dans cette profession qui sont quand même très engagées pour la santé des femmes, pour les droits des femmes, et que, outre les engagements pour la formation, pour la profession, dans l'évolution, dans le fait d'avoir des meilleures conditions, il y a aussi beaucoup le fait de permettre aux femmes un meilleur accompagnement et des meilleurs soins globalement.
Je suis complètement d'accord avec toi et c'est aussi pour ça je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'engagent et qui donnent aussi envie de s'engager à la NESF en plus que c'est vraiment un engagement qui est pour les étudiants et étudiantes, mais il y a aussi l'engagement de plein d'autres combats dont le féminisme, je pense, qui anime pas mal des militants et militantes de notre réseau. Est-ce que dans que ce soit de l'engagement à la NESF ou les autres engagements que tu as pu avoir, il y a un souvenir pour toi qui est marquant, ou même si c'est pas le plus grand, mais un souvenir qui toi te est vraiment justement un peu un symbole de ton engagement, ou le plus fort, ou un qui te vient en tête là tout de suite?
Je pense que c'est les GINESF qu'on a organisées sur mon premier mandat, qui étaient sur la prise en charge des personnes LGBTQIA+ dans le système de soins. Et en fait, c'était Chloé Ambara et moi qui avions eu l'idée et qui voulions absolument faire sur ce sujet-là, parce que on trouvait que c'était pas du tout abordé, que déjà c'était pas normal, mais que en plus les professionnels étaient quand même souvent démunis. Face à certaines situations, et du coup voilà, on a souhaité organiser ce congrès sur ce thème-là, et tout le bureau national nous avait suivi, et en fait c'était passionnant, c'était des formations qui ont vraiment beaucoup apporté, et du coup on a formé 10% des étudiants et étudiantes sages-femmes à ces thématiques-là, et en fait suite à ces GINESF, il y a eu énormément de mémoires sur des sujets de prise en charge des personnes LGBT, et ça a été beaucoup abordé ensuite par la suite par les associations du réseau. Donc on s'est rendu compte en fait qu'on avait eu au final un impact assez important, et que peut-être que par juste l'organisation d'un congrès qui fait juste partie d'une mission du mandat parmi tant d'autres, on a peut-être changé les pratiques de beaucoup de personnes, et ça a pu rayonner par la suite. Et ouais, je trouve que c'est un bon exemple d'à quel point un petit investissement individuel. Enfin, nous, ça partait d'une idée dans notre colloque où on s'est dit, ah, ce serait quand même super de faire sur ce thème-là. Et ça a peut-être changé les pratiques de beaucoup de sages-femmes par la suite. Et ouais, je trouve ça assez fou de prendre du recul et de se dire, ah, ben, on a réussi à faire ça, quoi, c'est chouette.
Ouais, carrément, c'est quand même génial de se rendre compte que tout ce qu'on fait, ça a cet impact après sur des tonnes de pratiques. Mais sinon, tu dirais que dans tout le parcours que tu as eu jusqu'ici, c'était quoi pour toi la plus belle victoire pour les femmes ou pour les sages-femmes d'ailleurs? S'il y en a une qui t'a plus marqué que les autres ou...
Alors, la plus belle victoire pour les femmes, je pense que c'est quand on a eu la victoire concernant la précarité menstruelle. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est actuellement de la mise en place, puisque c'est toujours le problème, hein. On obtient des choses, mais après, est-ce que la mise en place convient? Pas forcément. Mais en tout cas, bah, c'est pareil, on avait ce sujet, enfin ce dossier avec la vice-présidente en charge des affaires sociales à l'ANESF sur mon premier mandat. On s'est dit, ah, mais il n'y a peut-être pas de chiffres. Bah, si on lançait une enquête nationale, et finalement, de fil en aiguille, ça a donné une victoire. Et quand même, la gratuité des protections périodiques pour les étudiants et étudiantes, c'est une victoire importante. Donc, bah, moi, je retiendrai ça. Et après, pour les sages-femmes, bah, je dirais ce projet de loi bah, qu'on avait lancé sur mon mandat, qui a été poursuivi sur le mandat suivant et qui a porté ses fruits sur ce mandat-là. C'est bah, déjà, je pense que c'est la première fois qu'il y a eu vraiment un projet de une proposition de loi sur les sages-femmes, la première fois que ça a été accepté, et surtout que ça a eu de telles retombées sur la formation, et autant de nos dossiers qui passent finalement d'un seul coup, quoi.
Trop cool. C'est clair que le dossier précarité menstruelle, et encore on le voit même dans le réseau de la FAJ, reste quand même un des sujets où l'ANESF reste acteur, actrice et enfin actrice du coup de ce sujet, et où on est toujours vu aussi comme moteur là-dedans. Donc c'est assez c'est une enfin c'est une énorme victoire, que ça soit pour les femmes et même pour l'association. Donc c'est assez incroyable. Sinon, est-ce que pour toi, peut-être du coup moins au niveau de l'ANESF, mais plus sur toi en général, comment tu te vois, ben, en militante et en sage-femme, est-ce que pour toi il y a des choses qui te motivent à continuer à militer, et quels sont pour toi les grands combats qui restent à mener, que ça soit sur en général la prévention plus globale, ou même le métier de sage-femme?
Bah ça c'est une question que j'arrive pas à trancher moi-même. Enfin, en fait, il y a trop de sujets sur lesquels militer. Enfin, que ce soit bon, au niveau du droit des femmes, de la santé sexuelle. Moi, je suis aussi très touchée par la précarité, par la cause des migrants, par l'écologie. Et en fait, bon, on est obligé de faire des choix, parce que c'est pas vraiment possible de s'engager, ou du moins de donner beaucoup de temps à toutes ces causes-là. Du coup, moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal à savoir où donner de la tête et que choisir comme cause. Là, du coup, en ce moment, voilà, je suis bénévole prévention, donc bah, sur la prévention à la vie sexuelle et affective, parce que je pense que ça manque énormément. Et bah, il y a aussi une part de lutte contre les discriminations dans l'association Solidarité Sida, donc c'est quelque chose qui me convient. Et en plus, bah, je peux mettre à profit mes compétences en tant que sage-femme pour apporter des choses à l'association. Donc voilà, ça me paraissait aussi pertinent comme engagement. Mais bon, il y a tellement d'autres possibilités que c'est assez difficile de choisir ses combats, je trouve.
Ouais, totalement. Je pense que ça, on est pas mal aussi dans le réseau à être d'accord. Donc, on pourra beaucoup se retrouver là-dedans. Et du coup, on avait une question qui, d'habitude, on pose du coup aux autres personnes. C'était la vision et la place du militantisme quand tu étais étudiant ou étudiante sage-femme. Mais du coup, on y a pas mal répondu. Donc, pour toi, qu'est-ce qui serait un peu peut-être plus les perspectives de l'engagement des étudiants et étudiantes sage-femme plus tard, même dans le réseau de l'ANESF, ou les choses qui peuvent évoluer, ou qui sont... Comment l'engagement des ESF en gros peut évoluer dans les prochaines années, et quels sont un peu les enjeux là-dedans?
La principale perspective d'amélioration que je vois, c'est avec la 6e année, 3e cycle, et le fait d'avoir des études un peu moins oppressantes. Parce que j'ai l'impression que les étudiants et étudiantes sages-femmes s'engagent très bien, que celles et ceux qui ont envie de s'engager bah, arrivent très bien à trouver des causes et des lieux pour s'engager. Donc je pense que il manque. Enfin, je pense que beaucoup ont la flamme associative, ont l'étincelle qu'il faut pour s'investir et qu'il manque juste peut-être un petit peu plus de temps pour que ce soit moins difficile psychologiquement, parce que bon, j'ai vu beaucoup d'associatifs et d'associatives vivre assez mal leurs études et leurs mandats et être vraiment surchargés. Donc je pense que la perspective, c'est surtout la santé mentale des personnes qui s'engagent pour que ça reste quelque chose de très beau et pas quelque chose d'aussi oppressant.
Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir le troisième cycle aussi comme enjeu là-dedans. Que c'est pas du tout, enfin, ça n'avait pas vraiment été notre argumentaire en général, mais c'est clairement une des retombées qu'il peut avoir. Et on le voit aussi avec les autres associations, les étudiants qui ont des études plus longues et qui, du coup, ont aussi plus de. Même la temporalité dans laquelle on s'engage, etc., est différente dans nos études. Donc, ça serait intéressant de voir l'évolution de l'engagement avec cette réforme-là aussi.
Oui, carrément. Et du coup, pour finir, on a une dernière petite question, pareil, qu'on essaye de poser à tout le monde. Ça serait, est-ce que tu aurais un conseil, que ce soit un livre, une musique, un film, qui, toi, te parle énormément sur le sujet de l'engagement, du militantisme ou tout ce qui peut tourner autour de ça, que tu pourrais conseiller quelque chose qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête ou sur ce sujet?
Oui, bien sûr. Alors là, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé directement à un livre. C'est un peu plus large que le militantisme. Je pense que c'est plus lié à notre métier. Mais je pense que tous les étudiants et étudiantes sages-femmes devraient le lire, et voire même tous les soignants tant qu'on y est. C'est Le cœur des femmes de Martin Winkler. Je trouve qu'il fait prendre conscience de beaucoup de choses sur la façon dont on prend soin les personnes. Et ouais, moi, ça m'a. Bon, j'avais déjà des réflexions sur la manière de prendre en charge et comment je voulais être sage-femme par la suite. Mais voilà, je trouve que ça. Au niveau respect du corps, niveau consentement, niveau comment on se positionne en tant que soignant, c'est quelque chose qui est vraiment important, je pense. Donc, ouais, moi, je conseillerais ce livre-là.
Trop bien. Bah, merci beaucoup, Fanny. C'était hyper intéressant d'avoir ton retour aussi sur tout ça. Donc, merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup, Fanny. Et c'est du coup la fin de ce premier épisode. Merci, Roxane. Merci, Camille. Merci, Fanny, d'avoir été toutes les trois présentes pour cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain.